Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, merci. Il est tout juste 20h en temps universel, 21h à Paris.
Adrien Delgrange.
Content de vous retrouver, je suis accompagné de Céline Pellarin ce soir pour vous présenter en direct ce journal en français facile. Bonsoir Céline.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Et à la une de l'actualité internationale de ce samedi 5 mars 2016.
En Turquie, à Istanbul, affrontement aujourd'hui entre la police et la population qui veut défendre le journal papier Zaman.
De plus en plus de militaires pour garder la frontière entre la Bulgarie et la Grèce. Annonce aujourd'hui du Premier ministre bulgare dans le but d'empêcher les migrants d'entrer sur le territoire de l'Union européenne.
Du tennis, match décisif de l'équipe de France à l'heure actuelle en Guadeloupe. La paire Tsonga-Gasquet mène 2-7-0 contre le Canada.
Et puis cadre, tel est le mot de la semaine. Yvan Amar fera écho à l'actualité. 5 cadres, 5 dirigeants de l'armée polonaise viennent de démissionner.
Les journaux.
Le journal.
En français facile.
En français facile.
En Turquie, forte mobilisation de la population pour défendre le journal papier Zaman, un rassemblement réprimé, maté par la police turque.
Ils étaient environ 500 personnes réunies devant le siège, le bâtiment du journal à Istanbul, pour dénoncer sa mise sous tutelle. Autrement dit, le contrôle du journal par l'administration turque. Des manifestants qui demandent le respect de la liberté de la presse en Turquie. Il faut dire que Zaman est un journal d'opposition à la politique de l'actuel président turc Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, pour RFI, nous retrouvons Alexandre Billette.
Les employés de Zaman se sont rendus malgré tout au travail samedi dans une ambiance irréelle selon un journaliste, escorté par des policiers et sans accès à Internet dans les bureaux. Dehors, 500 personnes étaient rassemblées pour protester contre la prise de contrôle du journal, mais les policiers ont rapidement utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles de plastique pour disperser la foule. Sevgi Akarcheshme, la rédactrice en chef de la version anglaise du quotidien, s'était adressée auparavant aux manifestants.
Aujourd'hui est une journée honteuse pour la Turquie et la démocratie turque. Le gouvernement s'est emparé de notre groupe de presse et tente de réduire au silence toute voix discordante. Ceci est malheureusement devenu trop fréquent et trop habituel. La constitution a été suspendue aujourd'hui. Mais comme vous le savez tous, nous sommes dirigés par un régime qui n'a de respect ni pour la constitution, ni pour l'état de droit ou pour la démocratie.
Constitution, rule of law or democracy.
Désormais, le site internet de Zaman ne fonctionne plus, le compte Twitter a été effacé et l'édition de dimanche ne sera probablement pas publiée. Alexandre Billette, Istanbul, RFI.
L'Union européenne qui n'a pas tardé à réagir. Si la Turquie veut intégrer un jour l'UE, elle doit, je cite, respecter la liberté de la presse.
En Europe, la crise migratoire est en passe de transformer les frontières européennes de certains pays en forteresse.
Avec l'annonce, Céline, ce samedi de l'augmentation du nombre de militaires à la frontière entre la Bulgarie et la Grèce, c'est toute une partie de l'Europe qui a décidé de se confiner, de se renfermer pour tenter de résister à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui veulent entrer dans l'Union européenne. Un renfort militaire dénoncé par une partie de l'Europe, dont l'Allemagne et la France. Les explications de Romain Lemaresquier.
C'est le Premier ministre bulgare qui l'a annoncé ce samedi. Son pays va déployer plus de 400 hommes à sa frontière avec la Grèce. Armée, gendarmerie et police équipées de véhicules blindés et d'hélicoptères devraient rester dans cette zone proche de la Macédoine de manière permanente. Après la Croatie qui a approuvé ce vendredi des changements de sa législation afin de pouvoir déployer son armée aux frontières, la Slovénie qui a fait de même en février dernier et la Hongrie qui avait lancé le mouvement, c'est bien toute une partie de l'Europe qui a décidé de se protéger face à une pression migratoire qu'elle estime de moins en moins gérable. Cette militarisation des frontières fait suite notamment à la mise en place de quotas d'entrée par l'Autriche, ce qui fait craindre aux Slovènes que leur pays ne devienne le point de passage privilégié sur la route des Balkans. Même son de cloche en Bulgarie, alors que de son côté, l'Allemagne mais également la France plaident pour une amélioration des conditions d'accueil et la mise en place d'une politique de consensus au niveau européen. Un souhait rappelé par Donald Tusk, le président du Conseil européen, alors que lundi prochain se tiendra un sommet crucial entre l'Union européenne et la Turquie sur cette crise migratoire sans précédent.
Romain Lemaresquier.
Lula appelle la population brésilienne à l'aide.
Il a été interpellé, il a été interrogé vendredi dans le cadre d'un scandale de corruption. L'ex-président brésilien a déclaré « S'ils veulent me vaincre, alors ils devront affronter dans les rues ce pays ». Lula a annoncé qu'il se battrait jusqu'au bout et appelle donc ses partisans à descendre dans la rue pour le défendre. Pour rappel, la justice brésilienne lui demande de s'expliquer sur le financement d'un appartement et d'une maison de campagne.
Du sport, Adrien, du tennis, un match qui peut être décisif dans la rencontre de Coupe Davis qui oppose la France au Canada.
Puisque les Bleus mènent déjà 2-0 avec les victoires en simple hier de Monfils et Simon, il manque un seul point pour franchir ce premier tour de la Coupe Davis et ce point se joue en ce moment en Guadeloupe. C'est le double, la paire française Tsonga Gasquet opposée à la paire canadienne. Alors à un peu plus de 2 heures de jeu, Eric Mamrut, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que les Français sont en passe de remporter ce point décisif ?
C'est bien parti, effectivement, pour les Bleus qui mènent au score assez largement. 2-0 pour Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga, avec un départ néanmoins difficile dans cette partie, puisque la première manche n'a été remportée qu'au jeu décisif, au tie-break, 7-4. Mais les Bleus ont dû sauver 4 balles de 7 lors de cette première manche face à des Canadiens, Facek Pospisil et Philippe Bester, très percutants. Un premier set au cours duquel Joe Wilfried Tsonga s'est montré en dessous, en dedans de son niveau habituel. En revanche, Richard Gasquet parfaitement tenu la baraque avec des frappes très pures, très tranchantes. Premier set donc remporté par les Français à l'arraché, de justesse. Cela a fait mal au mental des Canadiens qui par la suite se sont un petit peu écroulés. Ils ont perdu la deuxième manche 6-1 et alors que la troisième manche vient de débuter il y a quelques instants, bien pour l'instant c'est l'égalité, un jeu partout. Les Canadiens sont au service, donc avantage de 2-0 pour Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga dans cette partie.
Merci Eric. Eric Mamrut que l'on retrouvera en direct dans une vingtaine de minutes pour faire un nouveau point sur cette rencontre de tennis France-Canada.
Comme tous les samedis soirs, Adrien, le mot de la semaine.
Et le mot de la semaine, Céline, expliqué par Yvan Amar, et le mot cadre. Yvan s'appuie sur l'actualité en Pologne.
En Pologne, les cadres de l'armée démissionnent. Enfin, certains d'entre eux. On vient d'annoncer la démission de 5 généraux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les cadres de l'armée ? Les officiers qui la commandent, qui la dirigent, hein. Et là, s'il s'agit de généraux, il s'agit bien sûr de très hauts gradés. Bien sûr, il n'y a pas que dans l'armée qu'on parle de cadre. Dans la vie civile et surtout dans la vie professionnelle, c'est un mot qu'on entend assez souvent. Le cadre s'oppose à l'employé ou à l'ouvrier. Ce n'est pas un terme qu'on va utiliser dans l'agriculture et même pas tellement dans l'artisanat ou dans le petit commerce, mais dans les entreprises, dans les administrations. Ceux qu'on appelle cadres, ce sont ceux et celles qui ont des responsabilités, qui organisent le travail des autres, qui dirigent les services. Alors, on a plusieurs catégories de cadres, ceux qu'on appelle les cadres moyens, au-dessus les cadres supérieurs, qui sont au niveau de la direction. Et on pourrait croire qu'on les appelle comme cela parce qu'ils encadrent la production. Ça serait logique, hein. En effet, leur travail peut consister à vérifier que tout est bien fait, imaginer des moyens pour que la production se fasse mieux, plus vite, en coûtant moins cher. Mais en fait, le mot cadre n'a pas été choisi à cause de cela. Alors, il y a un instant, on parlait des cadres de l'armée, et c'est bien là que ce mot est né. Pourquoi ? Eh bien, on peut se souvenir que, au départ, un cadre, au sens concret, c'est une bordure à 4 côtés qui entoure un tableau. Hein. Cadre et 4 sont de la même famille, 4 côtés. Donc, un cadre a désigné la bordure d'un tableau, puis le tableau lui-même, en particulier le registre où on inscrivait le nom des officiers. Et le sens du mot a encore glissé. Un cadre, ça a désigné l'officier dont le nom était inscrit sur ce livre. Donc les cadres de l'armée, ce sont bien les premiers.
À demain, Yvan Amar, pour l'expression de la semaine. C'est la fin de ce journal en français facile, présenté par Céline Pellarin
et Adrien Delgrange.
Il est 20h10 en temps universel, 21h10 ici, à Paris. Merci d'écouter la radio du monde.